France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. C'est dans le Var que nous avons découvert un programme d'installation de potagers destinés aux entreprises et aux communes sous le nom de potagers, au pluriel, potagers et compagnie. Lauric Ferreri va apporter des précisions sur cette démarche originale puisqu'elle consiste aussi à permettre à des maraîchers de vivre décemment de leur travail puisqu'ils sont salariés de la commune ou de l'entreprise. Voilà une belle initiative. Et puis quand le design textile s'associe à une structure d'insertion, cela donne naissance à Patchworkers, un atelier expérimental à Strasbourg.
Carnet de campagne. Le journal. Des solutions.
Lauric Ferreri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, maraîcher et consultant en agroécologie chez Potager, au pluriel, Potager et compagnie. C'est une entreprise sociale et solidaire drôlement intéressante parce qu'elle se propose, il y a déjà quelques exemples en cours dans le, du côté du Var, du côté de chez vous, de créer et d'accompagner les personnes qui sont concernées, à savoir les communes et les entreprises, par la création d'un jardin alimentaire, d'un potager, qui est ensuite évidemment entretenu par des maraîchers professionnels qui sont associés à la commune ou à l'entreprise. Alors Potager et compagnie, en fait, c'est le premier exemple. Puisque au Val, dans le Var, il y a un cabinet qui est un bureau d'études, un cabinet d'agronomie provençale qui a créé pour ses salariés un jardin.
Tout à fait. Alors le concept vient de là, de Potager et compagnie. C'est ce fameux cabinet d'agronomie provençale, donc qui a monté alors plus qu'un jardin, même une ferme maraîchère qui est conduite en agriculture biologique pour produire des fruits et légumes donc toute l'année et fournir des paniers de fruits et légumes bio aux salariés du cabinet provençal. Mmh. Et de là, en fait, c'est un peu développé l'idée et on a créé à quatre Potager et compagnie. Donc qui est une petite structure donc qui fait à la fois de la production sur cette ferme maraîchère de fruits et légumes bio et il y a également une activité de formation donc on dispense un certain nombre de formations autour de l'agroécologie, de l'agriculture biologique tout au long de l'année et un petit bureau d'études, un bureau de conseil pour accompagner comme vous le disiez les entreprises ou les collectivités territoriales à mettre en place des potagers d'entreprise ou des fermes maraîchères par exemple pour nourrir les cantines scolaires.
Un challenge de respecter des règles d'agroécologie sur des territoires très méditerranéens.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est la grosse contrainte et particularité aussi du milieu méditerranéen, c'est cette très très forte chaleur estivale qui en effet deviennent une vraie contrainte, une contrainte de plus en plus forte pour la production légumière et la production fruitière également, surtout en bio en fait où on a peu de moyens de lutte parce que ces grosses chaleurs ça attire aussi pas mal d'insectes et de ravageurs sur nos cultures et puis tout simplement il faut de l'eau et c'est pas ce qu'il y a le plus facilement ici donc oui ça c'est une vraie contrainte.
Alors à l'exemple de la ferme Saint-Georges qui jouxte et nourrit le cabinet d'agronomie provençale au Val, vous avez développé donc un autre potager, un Soleil du Sud à Roquebaron et le troisième au château d'Estoublon dans les Alpilles. C'est l'entreprise qui vous sollicite ?
Oui, tout à fait. C'est les entreprises qui sont venues nous voir parce qu'elles avaient envie de créer une nouvelle dynamique finalement dans l'entreprise ou d'ajouter une plus-value à l'entreprise. Le potager d'Estoublon, c'est un petit peu différent parce que c'est pour nourrir le restaurant qui se trouve sur place.
Mais alors, le maraîcher devient salarié de l'entreprise ?
Ça, c'est vraiment l'idée qu'on défend, c'est que le maraîcher, dans les systèmes qu'on met en place, est salarié alors de l'entreprise ou de la collectivité. L'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a un groupe, quel qu'il soit, une entreprise, collectivité, qui va en fait salarier son nourricier, la personne qui va les nourrir. Parce qu'aujourd'hui, les conditions de maraîchage ou les conditions du maraîcher sont des conditions très très difficiles. Et c'est quand même très difficile de pouvoir se tirer un salaire décent. Et puis c'est surtout le maraîcher, donc celui qui nous nourrit, qui porte absolument tous les risques et les aléas, c'est lui qui les supporte. Et en dernier recours, c'est toujours son revenu qui est la variable d'ajustement. Mmh. Et donc là, c'est vraiment de se dire qu'on défend un modèle agricole où finalement les personnes qui nous nourrissent peuvent avoir une vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire faire des heures décentes et puis avoir un salaire tous les mois qui tombe de manière régulière et fixe. Et ça, c'est vraiment un modèle qu'on défend.
Les expérimentations que vous menez à la ferme Saint-Georges intéressent aussi des structures scientifiques comme Montpellier Subagro.
Oui, tout à fait. Alors, on a des partenariats avec différents acteurs techniques. Montpellier Subagro en est un, donc rattaché à l'INRAE, l'Institut National de Recherche Agronomique. Et voilà, on essaie de monter un certain nombre de partenariats pour, encore une fois, pour être à la pointe de l'innovation et puis aller chercher dans ces nouvelles techniques en agroécologie pour pouvoir faire front à ce climat de plus en plus changeant et de plus en plus difficile. En milieu méditerranéen.
Et tout se passe depuis la commune du Val dans le Var. Potager, tradeunioncompagnie.fr pour l'adresse internet. Merci Loric.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Pendant les deux dernières semaines de cette 15e saison des carnets de campagne, je vais essayer régulièrement de vous donner un avant-goût des initiatives culturelles qui émergent ici et là de façon à nous rattraper un tout petit peu du silence culturel, de l'absence de culture que nous avons subi pendant plus d'un an. La culture, facteur d'attractivité des territoires de l'Hexagone, entre autres, c'est la position affichée par l'association Courant d'Art, j'ai bien dit Courant d'Art, qui intervient dans l'animation culturelle de communes fédérées à la politique d'accueil en Beaujolais vert, animée par Jean-Marc Bayeux, directeur du théâtre Double, et des bénévoles qui participe depuis 2011 à un festival estival en Beaujolais vert. L'association gère aussi un café, restaurant et café culturel à Tizy-les-Bourgs dans le département du Rhône. C'est depuis ce lieu que nous avons reçu donc un long courrier qui oscille entre le cri du cœur et la profession de foi sur le thème, je cite, « L'important n'est pas de guérir mais de vivre avec ses mots » en référence à Albert Camus. Le collectif nous interpelle sur cette période pandémique et sur le besoin de devenir non plus spectateur mais acteur du monde afin, je cite, « d'inverser la tendance à la destruction humaine de notre écosystème planétaire ». Fin de citation. Un immense projet qui traverse la programmation du festival qui s'appelle, j'aime beaucoup, Du Foin sur les planches, organisé par Courant d'Art. 3 semaines, écrit notre correspondant, pour aller mieux, bon c'est court, pour finir avec l'entre-soi et passer la colline, aller vers l'étranger, écouter l'autre et faire confiance à demain. Sincèrement, j'adhère à ces objectifs. Ainsi, ce festival agriculturel qui vient de débuter offre 18 spectacles, une série d'animations et des buffets, buvettes, distancié, parce qu'on garde quand même cette norme. Après le jazz à la ferme donné samedi dernier, c'est au tour de la MJC d'Amplepluie de créer vendredi une soirée autour de la Covid vue par le théâtre, et puis samedi une journée non-stop de fête au village de la chapelle de Mardor, bal folk distancié, là encore d'Abatoukada, des documentaires radio de la pop française, du théâtre de rue. Au programme de cette journée, vous allez trouver le lien avec l'événement à nos pages d'émission. Zoé Nelly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes designeuse textile et fondatrice de Patch Workers. C'est un atelier expérimental. On va dire pourquoi il est expérimental, parce qu'on parle évidemment de recyclage et de recyclage textile solidaire, parce que vous associez des personnes qui se trouvent en insertion professionnelle, dans des chantiers d'insertion, et comme vous, des designers donc qui conçoivent de nouveaux vêtements sur la base de ce matériel recyclable.
C'est ça. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on organise une production, donc comme vous l'avez dit, à partir d'une matière textile qui est la partie des textiles qui sont donnés à des associations comme Emmaüs, que Emmaüs ne peut pas revendre en l'état. Et on fabrique de nouveaux vêtements à partir de cette matière-là, tout en impliquant dans le processus de production les salariés en insertion, donc en intégrant un élément de formation à destination de ces salariés-là.
En fait, Patchworkers est né de votre expérience dans une structure d'insertion au Danemark.
Oui, c'est ça. Donc en fait, à l'époque, moi j'étais étudiante en design textile, donc au Danemark, et je travaillais en partenariat avec cette entreprise-là. Donc c'était vraiment tout à fait comme Emmaüs, donc ils récupéraient des matières seconde main qu'ils revendaient en l'état, mais une certaine partie, comme je disais avant, ils ne pouvaient pas la revendre et ils avaient vraiment envie d'en faire quelque chose et aussi d'impliquer leurs salariés dans de la création. Et en fait, ils avaient déjà l'infrastructure, donc tout un atelier avec des machines, vraiment un super espace et tout ça, et l'idée et les personnes, mais ils ne savaient pas trop comment s'y prendre au niveau de d'organiser une production donc qui ferait fonctionner des salariés qui ne sont pas forcément formés à la couture et aussi surtout comment faire avec cette matière textile qui est sans arrêt changeante et qui est de toutes les matières, de toutes les couleurs, etc. Comment faire pour créer à partir de ça quelque chose qui soit désirable et qui puisse être désirable en tant que vêtement au même titre qu'un vêtement neuf, quoi.
Alors la difficulté, c'est l'originalité, c'est que chaque production, chaque réalisation est unique.
C'est ça. Oui. Bah oui, forcément, en fait, on a pas trop le choix vu que notre matière première est un peu, ça change sans arrêt. Donc on a pas du tout la, enfin même si on voulait, on pourrait pas, on n'a pas la possibilité de faire plusieurs fois la même chose. Mais en revanche, ce qu'on essaye de faire, c'est de garder un peu toujours les mêmes modèles. Donc c'est un peu comme des recettes qui changent pas, mais la matière elle change tout le temps fatalement un peu les pièces sont uniques.
Et donc Zoé, vous avez passé un accord avec un atelier d'insertion près de chez vous à Strasbourg, Emmaüs Mondo.
En fait oui, j'ai souhaité que le projet vraiment se base sur un partenariat comme ça parce que c'était l'idée en fait de faire de cette activité là aussi un soutien à l'insertion, parce que je pense que c'est une activité artisanale comme ça et de processus de design qui développe certaines compétences de communication, de prise d'autonomie, de développement de confiance en soi comme ça, et d'un rapport à la matière aussi qui s'intègre bien dans un parcours d'insertion. Donc oui, pour l'instant, on a ce partenariat avec Emmaüs Mundo au niveau donc de la matière première. Donc on essaye au mieux d'utiliser ce que eux ne peuvent pas utiliser et donc d'impliquer leurs salariés dans la confection.
C'est financièrement viable pour un atelier comme le vôtre de travailler justement sur des pièces uniques?
Alors ça, c'est toute une question. En fait, avec ce projet, on a eu la grande chance au début d'avoir un financement européen. Le FSE micro-projet, ça s'appelait. Donc c'était vraiment pour permettre d'avoir toute une phase expérimentale au projet et de lancer un peu ce partenariat-là avec Emmaüs en se disant voilà un peu l'idée. On a une idée et un idéal et on va essayer de voir si ça fonctionne, si on peut créer de beaux objets, si les gens qui travaillent avec nous sont contents, enfin, et s'il y a moyen de peut-être de continuer un peu sur ce même modèle de production, mais à une plus grande échelle. Par exemple, si on avait l'atelier à Emmaüs même. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a pu se lancer sans se poser vraiment la question de si c'était viable au niveau de la vente de vêtements.
On aime bien l'association création et insertion. Patchworkers.fr pour l'adresse. Merci Zoé.
Merci à vous.
Il y a quelques jours, nous avions évoqué avec Sylvie Le Calvez, qui est directrice de publication du magazine Village, dans le dernier numéro d'été, le retour ou le regain d'intérêt pour la fleur locale. Et nous avions évoqué l'existence du collectif de la fleur française. Or, ce collectif qui regroupe plus de 220 horticulteurs, fleuristes et grossistes en France, qui défendent la fleur coupée française locale et de saison, organise dimanche prochain, le 27 juin, la première édition de la journée de la fleur française. C'est une manière de rappeler que 85% des fleurs coupées vendues en France sont importées. Elles sont importées de pays européens, mais aussi de pays d'Amérique du Sud, comme c'est souvent le cas. Pendant cette journée, il y a une centaine d'événements. Si vous allez sur le site collectifdelafleurfrançaise.com, vous verrez les membres participants, vous verrez les événements proches de chez vous, c'est le 27. Et le jour J, il sera annoncé donc une opération qui s'appelle, j'aime beaucoup, la chasse aux bouquets. C'est-à-dire que les collectifs créent des bouquets pour promouvoir la fleur française coupée. Et à vous de trouver là où se situent, où peuvent se situer les bouquets, si vous voulez les récupérer. Évidemment, c'est absolument gratuit. Il y a la provenance qui sera indiquée sur chaque bouquet. Donc c'est la première journée de la fleur française, dimanche prochain.